Vous écoutez On lit pour vous.
Derrière la fusillade de Côte-des-Neiges, une idéologie conservatrice et essentialiste. Un texte d'Anne-Sophie Dufour paru le 23 juin 2026 dans Le Devoir. Qu'est-ce qui a poussé un homme à s'armer et à commettre l'irréparable dans les rues de Montréal? C'est la question qui occupe tous les esprits depuis la fusillade survenue dans Côte-des-Neiges. Le tireur aurait laissé derrière lui un manifeste de 105 pages imprégné de l'idéologie incel et le choix de son point de tir juste en face du siège social de la société propriétaire de Pornhub n'aurait rien d'un simple hasard. L'idéologie incel, c'est quoi exactement? Pour Francis Dupuis-Derry, professeur de sciences politiques à l'UQAM et co-directeur du chantier sur l'antiféminisme, il n'y a aucun doute. L'auteur du manifeste est un incel pur. Il n'y a pas de débat là-dessus, c'est vraiment l'expression de l'idéologie incel, tranche-t-il. Mais qu'est-ce que ça désigne exactement? Léa Clermont-Dion, professeur associé en éducation à l'Université Concordia, réalisatrice et chercheuse, explique que le terme vient de l'anglais « involuntary celibate »,« célibataire involontaire » et désigne une sous-culture incarnée en ligne, composée majoritairement d'hommes hétérosexuels qui éprouvent de la frustration face à leur incapacité à avoir des relations amoureuses ou sexuelles avec des femmes. Selon elle, les incels s'en prennent souvent à ce qu'ils perçoivent comme un système hiérarchique organisé où certains hommes, ceux qui correspondent aux standards de beauté, qui ont de l'argent et du pouvoir, seraient favorisés au détriment des autres. Quel lien peut-on faire entre les incels, Pornhub et le passage à l'acte du tireur? Selon Léa Clermont-Dion, le tueur prônerait, dans son manifeste, un retour très naturaliste à la vie. Samuel Tanner, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, explique que cette idée repose sur un fond extrêmement conservateur et essentialiste, où les hommes et les femmes seraient définis par leur biologie et où chacun a des rôles qui en découleraient naturellement. Tout ce qui viendrait violer ces règles naturelles, dont la pornographie, devient quelque chose à éliminer, car elle cause du désordre dans les relations sociales, bien qu'il s'agisse, précise-t-il, d'un mythe. Selon la professeure à l'Université Concordia, Pornhub pourrait incarner, aux yeux du meurtrier, un système économique qui favorise l'émancipation sexuelle, une réalité en contradiction directe avec la vision conservatrice du monde de celui-ci. Ce type de fusillade est-il un phénomène nouveau? Pour M. Dupuis-Derry, cette fusillade ne constitue pas un cas isolé. Le phénomène des tueries liées à l'idéologie incel serait mondial et relativement récent. On est rendu à au moins une dizaine d'attentats ou de tueries d'incel depuis 10-15 ans, estime le professeur. Une partie de ceux-ci ont eu lieu aux États-Unis, mais également au Canada. Par exemple, l'attentat à la voiture Bélier survenu à Toronto en 2018. Le Québec n'est d'ailleurs pas étranger à ce type de violence. La tuerie de Polytechnique en 1989, motivée par la haine de l'émancipation des femmes, est aujourd'hui considérée par plusieurs chercheurs comme un précurseur de l'idéologie incel. Le courant incel est d'ailleurs défini comme une menace par les services de renseignement et de police depuis plusieurs années, précise M. Dupuis-Derry. La chercheuse Léa Clermont-Dion explique qu'on peut observer dans le manifeste de l'auteur de la fusillade de Côte-des-Neiges certains traits qui sont communs à d'autres tueurs incel. Une frustration, un ressentiment à l'égard des femmes qui sont émancipées et une victimisation des hommes. Reste que ce profil est difficile à intercepter avant un passage à l'acte. ce qui complique le travail des forces de l'ordre, selon M. Dupuy-Déry, c'est que les incels agissent généralement seuls, sans organisation ni réseau logistique, contrairement à d'autres mouvances, ce que la sécurité publique appelle le phénomène du « loup solitaire ». Comment agir en prévention? Pour Léa Clermont-Dion, il faut prendre ça très au sérieux. La professeure à Concordia est d'avis que cela passe d'abord par le financement de la recherche sur la mouvance incel. Elle insiste sur une prise d'action à l'échelle nationale qui pourrait s'inspirer de la Grande-Bretagne, qui a pris la menace incel très au sérieux en misant notamment sur l'éducation des adolescents à cette idéologie en particulier. Elle insiste aussi sur la nécessité d'investir adéquatement dans la surveillance des forums et réseaux sociaux où se structure cette mouvance. Selon elle, ça passe par prévenir, éduquer et réfléchir à des programmes d'éducation qui ne soient pas faits sur le coin d'une table, mais avec des pédagogues et des spécialistes, ce qui, dit-elle, n'est pas encore fait. Tracking Pixel. Francis Dupuy-Déry abonde dans le même sens. Il faut en parler publiquement et citer clairement l'idéologie incel quand elle est en cause pour contribuer, selon lui, à éveiller les consciences. Il insiste aussi sur l'importance de discuter avec les adolescentes pour voir si elles vivent des problèmes avec des garçons de leur entourage et les outiller pour qu'elles se sentent mieux. Enfin, Samuel Tanner propose des stratégies éducatives destinées surtout aux adolescents. Il mentionne l'importance du dialogue dès cet âge et de poursuivre le combat de la régulation des contenus et de l'utilisation des réseaux sociaux chez les jeunes. Il faut aussi tendre l'oreille aux jeunes hommes pour répondre à leurs préoccupations, explique-t-il. Les modèles de socialisation masculine actuels, axés sur le contrôle et le rejet des émotions, les laisseraient démunis. Pour lui, les cours d'éducation sexuelle à l'école ne devraient pas porter seulement sur des questions biologiques, mais aussi sur la socialisation et les rôles de genre. C'était « Derrière la fusillade de Côte-des-Neiges, une idéologie conservatrice et essentialiste », un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 23 juin 2026 dans Le Devoir.
Françoise David, La vie par procuration. Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. La rencontre avec Françoise David se fait dans un café du Vieux-Rosemont, quartier qu'elle habite depuis longtemps. C'est le 1er mai, Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Elle qui a milité pendant de nombreuses années à faire respecter les droits de tous les citoyens et de toutes les citoyennes, la coïncidence ne s'invente pas. Surtout, en s'apprêtant à parler de « se tenir debout » éco-société, son plus récent ouvrage qui invite à la lucidité d'un monde en pleine crise, oui, mais qui nécessite d'autant plus que l'on se lève pour y faire contrepoids. En parallèle, l'ex-politicienne revisite avec nous son parcours de lectrice, qui l'a conduite et l'amène toujours à des prises de conscience sur une humanité forte de sa complexité et de sa grandeur. Dès l'apprentissage de la lecture, notre invitée en fait une marotte. Au primaire, qu'elle passe au couvent, elle emprunte chaque jour un livre dans la petite bibliothèque érigée derrière la classe. La religieuse qui enseignait, voyant le manège quotidien, lance un jour à son élève « Mademoiselle David, c'est impossible. Vous ne pouvez pas lire un livre par jour. Ce dont je me souviens, c'est du sentiment qui m'a envahi. J'étais insultée. Clame, celle qui ne mentait pourtant pas. De la comtesse de Ségur à la collection Signe de piste, elle restera attachée encore aujourd'hui à la lecture de romans où une histoire lui est racontée et où les raies de la fiction, pareilles à une télésérie, l'empoignent pour ne plus la lâcher. Un des derniers en liste est « Les belles promesses » de Pierre Lemaître, pour lequel elle ne tarit pas d'éloges. C'est quelqu'un qui est capable de nous amener là où vivent les personnages, de nous faire entrer dans leur monde, dans leur imaginaire, dans leur quotidien aussi. Alors, quand j'ai les deux, la belle histoire et l'écriture, je suis heureuse. L'opportunité de découvrir de nouvelles cultures n'est pas pour déplaire à Françoise David, qui garde de sa lecture de « L'immeuble Yacoubian » d'Ala El Aswani, la sensation d'avoir atterri en pleine Égypte. Quand on m'amène ailleurs, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, là, j'ai l'impression de faire un grand voyage et d'apprendre à mieux connaître, à mieux comprendre des humains, comme moi, qui ont souvent la même aspiration au bonheur. À ce propos, elle lance l'idée que tous et toutes, nous devrions chaque année découvrir un livre qui nous amène loin de chez nous, dans le but de se rappeler nos fondements universels. Devenir féministe. Parmi les jalons qui ont participé à l'édification des convictions de Françoise David, nul doute qu'ainsi soit-elle. De Benoît de Groulx en fait partie. C'est un essai, tout petit, très concret. Les femmes dans plein de pays du monde. Je suis devenue féministe. Publié en 1975, il met les lectrices en garde. C'est pourquoi, à toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise, et que l'histoire ne revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes. L'entourage de David et la teneur sociale de l'époque concordent avec un constat chez notre invité qui intégrera désormais la cause des femmes au centre de toutes ses luttes. Elle s'empare ensuite de l'œuvre entière de Groulx, notamment les vaisseaux du cœur, qu'elle le reliera à plusieurs reprises. Un roman d'amour, un des plus grands que j'ai jamais lu, qui aura valu à son autrice les foudres de certains à cause des thèmes de la passion, du vieillissement et du désir qu'il explicite. Un autre essai percutant pour David fut « Les identités meurtrières » d'Amin Maalouf. Rapportant l'importance des singularités qui doivent cependant éviter de glisser dans l'extrémisme. Chacun d'entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule, érigée en appartenance suprême et en instrument d'exclusion, parfois en instrument de guerre. Un titre que notre libraire d'un jour conseille encore et encore. À travers les romans, Françoise David puise autant de matière à réflexion, comme ce fut le cas pour « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui dépeint l'abandon par sa grand-mère maternelle de ses propres enfants. En débutant la lecture, on ne peut imaginer une pareille chose. Puis, au fil du récit, écrit avec une absence de présomption, on est incapable de prendre position. On referme le livre et on est obligé de se poser la question terrible. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Moi, j'ai toujours pas la réponse. Au même titre que dans l'autobiographie « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Leroy, l'exploit d'un bon livre réside dans la manière et le talent de dire. Ce dernier, relatant la trajectoire de l'écrivaine, de son Manitoba natal à la France, en passant par l'Angleterre, figure au sein des plus importants que notre invité ait pu avoir entre les mains, tout pays confondu. Avec Bonheur d'occasion, son premier roman, brossant le portrait d'une famille peu fortunée du quartier Saint-Henri à Montréal, elle convainc déjà Françoise David, qui, à l'époque, se destine au travail social, en lui faisant connaître de l'intérieur les conditions de vie fragiles des Lacasse. Gardez confiance. Notre lectrice ne dément pas son plaisir des romans policiers, révélant son intérêt pour l'auteur Craig Johnson, qui la transporte très loin aux confins du Wyoming. Moi, je découvre un univers. C'est ça que j'aime. Le meurtre, je m'en fous un peu. Le Suédois Henning Mankell et l'Italien Andrea Camilleri lui ont également ravi bien des heures. Et le coup de grâce lui est asséné ces temps-ci par Télisson Aurélien, qui, dans « C'était ça ou mourir », décrit la route migratoire d'un homme bataillant pour sa survie. Je suis absolument émerveillée. Ça nous aide tous et toutes à comprendre qu'est-ce que ça veut dire traverser un continent pour arriver au Québec finalement. C'est un livre magnifique. J'espère qu'il va gagner plein de prix. Ça, c'est un vrai écrivain. Françoise David écrit aussi. Fidèle à elle-même, elle se penche dans « Se tenir debout » sur les injustices et réitère de nouveau la primordialité du bien commun en souhaitant attiser le feu de l'espoir. À sa lecture, nous faisons face à deux émotions contraires. Le constat affligeant des inégalités et en même temps la joie de savoir qu'il existe des solutions. La plupart des gouvernements du monde fréquentent beaucoup trop les riches et puissants, mais pas assez le monde ordinaire. D'une manière concise et précise, l'ex-député de Québec solidaire enjoint à tout un chacun de donner du crédit aux valeurs d'altruisme et de partage qui nous habitent pour construire un avenir qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne repose pas sur l'utopie jusqu'à bien des égards. Elle le démontre par différents exemples. Nous sommes une multitude à revendiquer davantage de bienveillance et d'équité. Lecture personnalisée de Françoise David aux candidats et candidates aux prochaines élections du Québec. Ruba Gazal. Les années. Annie Ernaux, chez Folio. Pour un regard féministe sur la société française et la gauche politique. Charles Milliard. Que notre joie demeure. Kev Lambert, chez Héliotrope. pour la confrontation entre l'intégrité et la richesse. Paul Saint-Pierre Plamondon. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Francine Pelletier, chez Luxe. Pour une analyse critique du nationalisme identitaire. Éric Duhem. Rue. Kim Thuy, 10 sur 10. Parce que cette autrice québécoise est remarquable. Christine Fréchette, Les villes de papier. Dominique Fortier, chez Alto, pour mettre de la poésie dans sa vie de PM. C'était Françoise David, La vie par procuration, un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
La richesse de plus en plus concentrée au sommet. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse. Les ultra-riches sont de plus en plus riches, révèle un nouveau rapport qui permet, par exemple, de savoir quelle est la fortune moyenne dont dispose le 0,01% des familles les mieux nanties du Canada. Celles qui habitent au Québec jouissent d'une fortune moyenne de 408 millions de dollars. En Ontario, on parle plutôt de 546 millions de dollars. En Colombie-Britannique, de 501 millions de dollars et en Alberta, de 393 millions de dollars. C'est le constat que dresse l'organisme sans but lucratif Canadians for Tax Fairness, Canadien pour une fiscalité équitable, qui appelle à une plus grande taxation des hyper-riches au pays. C'est l'Ontario qui compte le plus grand nombre de familles milliardaires, soit 38. Cela représente 44% des familles milliardaires canadiennes, alors que la province représente 39% du poids démographique du pays. On retrouve 27 familles milliardaires au Québec, ce qui représente 31% des familles milliardaires du pays. C'est davantage que le poids démographique du Québec, qui est de 22%. Le rapport note qu'au Québec, les familles qui comptent parmi le 1% des plus riches détiennent près de 25% de la richesse totale. Parmi les actifs évalués par les chercheurs, on trouve des habitations et des terrains, mais aussi des actions et des parts de fonds d'investissement, des assurances-vie, des retraites, des liquidités et des dépôts. Le Canada compte 3 380 familles dont le patrimoine s'élève à au moins 100 millions de dollars. Canadians for Tax Fairness a noté que la concentration de la richesse a augmenté dans 9 des 10 provinces canadiennes depuis 1999. Seule la Colombie-Britannique a vu la concentration diminuer. Minimum de coordination. Claire Sellérier, titulaire de la chaire de recherche du Canada en finance des ménages et professeure agrégée de finance à la Rotman School of Management de l'Université de Toronto, note qu'il s'agit d'un phénomène mondial. Une grande partie des actifs des ultra-riches sont des actifs financiers comme des actions ou des participations dans des sociétés privées, dit-elle. Les valorisations ont beaucoup augmenté ces dernières années et ça contribue à la hausse des inégalités. Les salaires, eux, ont augmenté beaucoup moins rapidement, surtout si l'on tient compte de l'érosion du pouvoir d'achat due à l'inflation. L'un des moteurs de cette dynamique est structurel. Les taux d'intérêt qui sont à des niveaux très bas historiquement. Les ultra-riches peuvent emprunter à bas taux et ensuite acheter des actifs qui génèrent énormément de rendement, souligne la chercheuse. Aucune banque ne va leur refuser un prêt, bien sûr. On l'a vu durant la pandémie, avec les taux extrêmement bas, même en dépit de la hausse qui a suivi pour juguler l'inflation, et on le voit encore aujourd'hui. L'une des façons de réduire les inégalités et de mieux financer les programmes publics serait de taxer les grandes fortunes et pas seulement le revenu, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Il y a souvent deux freins à cette approche. La crainte d'évasion du capital vers des pays plus cléments et la désincitation à la création d'entreprises. Pour cette deuxième crainte, on parle de fortunes de centaines de millions ou de milliards. On est au-delà du niveau de l'incitation à la création d'entreprises. Pour la première crainte, il faudrait avoir un minimum de coordination, dit Mme Sellérié. Crainte pour la démocratie. Les auteurs de l'étude constatent aussi que ce phénomène fragilise la démocratie au pays. Par exemple, au Québec, 18 710 familles possèdent un patrimoine net supérieur à 10 millions de dollars, tandis que 686 500 personnes se trouvaient sous le seuil de la pauvreté en 2023, notent les chercheurs. La concentration extrême des richesses représente un danger considérable pour la démocratie et la cohésion sociale, en particulier à l'échelle à laquelle nous la constatons actuellement au Canada. Il est manifestement injuste de permettre à un petit groupe de Canadiens d'accumuler, sans être imposé, une fortune qu'il serait impossible de dépenser en plusieurs vies, alors que la pauvreté et l'insécurité alimentaire atteignent des niveaux records, écrivent les auteurs, appelant à une taxation accrue des actifs des ultra-riches. Mme Sellérié estime qu'il est urgent d'avoir un débat sur la question puisque les inégalités extrêmes menacent les fondements même de la société. Durant d'autres périodes, les années 1920 par exemple, les ultra-riches avaient l'habitude de faire du mécénat. Ce phénomène est moins prononcé aujourd'hui chez les ultra-riches. Ça peut créer du ressentiment, de la polarisation et être dangereux pour la démocratie. C'était « La richesse de plus en plus concentrée au sommet », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 2 juillet 2026 dans La Presse.